RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
On est ensemble sur RMC jusqu'à 17h, journée de repos sur le Tour de France. On va revivre les meilleurs moments de cette grande boucle. On sera à Besançon en direct à 17h. En attendant, on va faire un retour en arrière, direction l'Angleterre. D'où est parti ce Tour 2014? Nous sommes à Harrogate, c'était la première étape. C'est un Allemand, Marcel Kittel, qui gagne. Et pour lui, tout va s'enchaîner.
Et le sprint est lancé par Marcel Kittel, le coureur allemand de l'équipe Giant Shimano, qui va aller s'imposer devant un coureur de l'équipe Garmin, devant Peter Sagan également, premier
Marcel
Kittel, deuxième Peter Sagan, et à terre en ce moment Marc
Cavendish,
les Giant Shimano qui emmènent maintenant à 500 mètres de la ligne. Marcel Kittel, vainqueur de la première étape du Tour à Harrogate, vient de passer Buckingham Palace et bien calé dans la roue de deux équipiers encore, idéalement lancé. Il est en troisième position dans sa roue. On a Peter Sagan, le maillot vert. Arnaud démarre et dans la roue, Peter Sagan qui frotte avec Brian Cocard. Sur la droite de la route, Marc Crenshaw est toujours emmené par un équipier d'Omega Pharma. On est à 400 mètres de la ligne et Marcel Kittel est toujours calé dans la roue d'un équipier. Marcel Kittel qui produit son effort maintenant avec dans sa roue Peter Sagan, le déménageur allemand. Marcel Kittel qui lance plein champ, le champ ici sur le mal, il ne sera pas remonté. Quelle puissance de Marcel Kittel qui remporte sa deuxième étape sur ce Tour 2014, imbattable, et sixième succès sur la route du Tour pour Marcel Kittel en deux années. Kittel qui n'a jamais
troisième cocard, je crois, troisième cocard
de Peter Sagan, effectivement. Un Kittel, deux Sagan, trois cocards, sprint on ne peut plus limpide. Le meilleur sprinter du peloton s'appelle Marcel Kittel, il était imbattable aujourd'hui.
Le sprint est en train de se lancer. Fred, Kittel, Greipel ou pourquoi pas Arnaud Démarre et Brian Cocard.
Giant Shimano a sonné la charge et sur la droite de la route, on tâche de positionner Marcel Kittel, le double vainqueur d'étape, dans les meilleures dispositions. 750 mètres de la ligne d'arrivée, ce sont les Katyusha qui emmènent au mieux le sprint avec le sprinter norvégien Alexander Kristoff positionné en deuxième position, avec en troisième ligne Marc Crenshaw, le sprinter australien. Quatrième, Marcel Kittel. Cinquième, Peter Sagan. Septième, Danny Van Poppel, Brian Cocard. Et huitième, pour l'instant, on est à 300 mètres de la ligne et c'est bel et bien Alexander Kristoff, le sprinter norvégien, qui va lancer le sprint. Et sur la droite de la route, Marcel Kittel va parler, va tâcher de faire parler sa puissance. Marcel Kittel qui est un peu court et qui va peut-être se faire battre sur la droite de la route par Brian Cocard ou par Arnaud Démare qui vient remonter au pédalier. Mais c'est bel et bien Marcel Kittel qui, me semble-t-il, vient décrocher sa troisième victoire d'étape en 4 jours. Le sprinter allemand qui va devoir attendre la photo finish pour savoir si Alexander Kristoff, le sprinter norvégien de l'équipe Katyusha, l'a devancé d'un boyau ou d'une demi-roue. Ça va se jouer vraiment à la photo. Marcel Kittel n'était pas aussi impérial aujourd'hui, mais il me semble que Kittel a remporté une troisième étape ici au stade Pierre-Mauroy, avec Marcel Kittel qui est lâché
à
1,2 km de l'arrivée. Apparemment, il se ressent de sa chute d'hier sur les pavés. Marcel Kittel qui ne disputera pas la victoire. On passe sous la flamme rouge.
Kwiatkowski qui vient d'attaquer à la flamme rouge. Kwiatkowski, le leader, le jeune leader polonais, qui est bien placé au général, qui va l'attaquer. Allez, maintenant, il faut falloir se resserrer derrière, il va falloir accélérer. Brian Cocard va-t-il pouvoir remporter ce sprint? On va le voir dans un instant, Fred.
Voilà pourquoi l'équipe belge Omega Pharma préparait le terrain, peut-être pas seulement pour Marc Crenshaw, le sprinter australien, mais pour Michal Kwiatkowski qui sait tout faire en montagne, sur les pavés et donc en finisseur. On est à 600 mètres de la ligne d'arrivée. Michal Kwiatkowski, maillot blanc de leader du classement du meilleur jeune, est en train de résister au retour du peloton emmené par l'équipe Katyusha. Il compte en une petite vingtaine de mètres d'avance. Il aura du mal à résister. Derrière, ce sont les coureurs de l'équipe Europcar avec Kevin Reza qui ramène le peloton sur Kwiatkowski. C'est perdu pour Kwiatkowski. Kevin Reza qui lance le sprint à 300 mètres de la ligne d'arrivée dans sa roue. Il y a Marc Crenshaw, il y a Kristoff, il y a André Greipel, le champion d'Allemagne. On a perdu Brian Cocard. On a perdu Brian Cocard. C'est André Greipel qui lance le sprint plein champ, le champion d'Allemagne, qui va aller prendre le relais de Marcel Kittel. Victoire d'André Greipel, le gorille de Rostock, qui s'impose devant le Norvégien Alexander Kristoff de l'équipe Katyusha. Le premier français, c'est effectivement comme le disait Cyril, Samuel Dumoulin, le
troisième,
de l'équipe AG2R La Mondiale. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et quand Kittel lâche le peloton à 1,5 km de l'arrivée par l'arrière.
Et quand c'est pas un Allemand, c'est un autre Allemand.
Son compatriote André Greipel qui vient récupérer les lauriers.
Je vous rappelle donc la victoire d'André Greipel, tout le monde l'a vu, aujourd'hui c'est vrai qu'il avait été un peu absent depuis le début de ce Tour de France, le champion d'Allemagne, mais il a aujourd'hui montré qu'il avait des muscles et qu'il avait surtout de grosses jambes pour s'imposer au sprint. Marcel Kittel, lui, semblait un peu en deçà de ses capacités montrées lors des premiers jours, il termine un peu plus loin. Greipel qui permet donc aux Allemands de remporter une quatrième victoire d'étape sur le Tour, alors que nos petits Français sont un peu plus loin. Cyril, ils sont un peu plus loin, ils n'ont toujours pas remporté la moindre étape. On nous annonçait les stars des sprints, les Arnaud Démare champion de France, les Brian Coquart vice-champion olympique de l'Omnium. Bon, il faut bien dire que c'est leur premier tour, mais on espérait peut-être un peu mieux. Non ?
Oui, on espérait mieux. Il y a quand même des signes qui sont intéressants. On a vu Arnaud Démare avant-hier venir faire troisième de l'étape avec un super sprint. Malheureusement, un petit peu trop loin aux 300 mètres pour pouvoir venir l'emporter. On a vu Brian Coquart terminer deux fois quatrième, une fois cinquième, et qui était encore dans le sprint aujourd'hui et qui fait huitième. Les sprinteurs français sont là. Il leur manque un petit quelque chose pour aller chercher la gagne. Coquart, on y a cru à un moment, mais il s'est fait mettre dans la boîte. Donc il n'a pas pu sortir. On a eu Samuel Dumoulin qui, lui, vient prendre une très belle troisième place. Mais pour l'instant, c'est vrai que nous sommes dominés, vous l'avez souligné il y a quelques instants, par les Allemands, par Kittel, aujourd'hui diminué par sa lourde chute hier, de même d'ailleurs que son poisson pilote de Gunkolb. Et donc c'est un autre Allemand qui est venu prendre la succession, lui aussi une belle bête.
C'est vrai, quand on regarde les physiques des sprinteurs allemands et les physiques des sprinteurs français, on n'est pas dans la même cour, hein, c'est pas la même chose. Alors tu me diras, Coquart, ça l'a pas empêché de remporter de belles victoires depuis le début de sa saison, mais il rend combien? Il rend 15 cm au moins et au moins 15
quelques
ou 20 kilos,
non? Et quelques kilos, oui. Mais alors, il rend quelques années aussi. C'est vrai aussi pour Arnaud Démare, hein, il faut quand même le signaler. Ce sont des coureurs qui sont très jeunes, 21 ans pour Coquart, 23 pour Arnaud Démare. Donc il y a quand même une marge de progression qui est énorme. Alors cette marge de progression, je le dis, je le répète, elle pourra véritablement être visible le jour où on aura mis autour de ces coureurs des coureurs capables de les placer pour ne pas se trouver, comme ça a été le cas aujourd'hui pour Brian Coquart, se retrouver dans la boîte, ou comme Arnaud Démare avant-hier, où il s'est retrouvé lui aussi dans la boîte.
On va tout de suite écouter Brian Coquart sur lequel on comptait un peu. C'est vrai, quand on a vu que Kittel était retardé, qu'il ne pourrait pas disputer le sprint, on s'est dit c'est peut-être le jour de Coquart, mais
d'autant que c'est une arrivée, comme il rend quand même quelques kilos à la bête de Rostock là, hein.
Le gorille
dans une arrivée montante, hein, c'était pas une vraie côte, hein, mais c'était quand même pratiquement du 3%. Là, le rapport poids-puissance va s'inverser et devrait logiquement favoriser Coquart. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, avec Redza qui lui a fait un bon boulot, mais juste à la fin, Redza a un petit peu oublié Coquart et Coquart s'est fait mettre dans la boîte par Peter Sagan. C'est la règle du jeu. Coquart aurait peut-être pu, s'il arrive à rester dans le sillage de Kevin Redza.
Alors, il s'est expliqué avec Reza là, sur la ligne d'arrivée. Il n'était pas très content, paraît-il. Hein, mais bon, ça c'est resté.
Puis attendez, quand on descend du vélo, qu'on a fait un sprint, qu'on a frotté comme des bêtes, de l'adrénaline, vous en avez un stock de 15 jours. Hein, 15
Allez,
jours.
On écoute Brian Coquart tout de suite après la ligne franchie, ligne qu'il a franchie en 8e position.
Un peu déçu parce que Kevin Reza a bien pris la tête comme on l'avait dit. Mais en fait j'ai perdu un peu la roue. Et il y a eu un accrochage contre Feuillu et Sagan. J'ai vraiment failli me casser la figure à, je sais pas, 350 mètres de l'arrivée. Et du coup, bon bah voilà, j'ai carrément pilé. J'ai pas baissé les bras parce que bah voilà, la Reza avait fait un bon boulot, Yo-Yo aussi auparavant. Du coup, bon bah voilà, je me suis dit je vais essayer quand même de revenir. Je revenais bien, mais bon, en mettant un coup de patin à 350 mètres de l'arrivée, c'est difficile après.
C'est sûr que c'est compliqué de freiner dans un sprint. Tout de suite, ça vous empêche de disputer la victoire au Gorille de Rostock. Thierry, tu es inquiet, toi, pour les sprinteurs français, ou tu te dis que c'est normal, finalement? C'est leur premier tour, ils sont en train d'apprendre. C'est un long apprentissage, hein, le Tour de France.
Oui, j'allais te dire, c'est un peu normal. Parce que après l'étape, les étapes que nous avons connues les derniers jours, on y laisse beaucoup de jus. Et comme ils n'ont pas forcément l'habitude d'un grand tour, et ben leur premier tour, ils perdent du jus, ils perdent de un peu de santé, un peu de tout, et c'est ce qui fait que sur la fin il en manque. Mais bon, Cocard est toujours là, faut le dire. Moi, je suis plus inquiet pour Desmarres, qui hier soir, on le voyait avoir fini cette étape complètement défoncée, lessivé. On avait l'impression qu'il était passé dans une machine à laver, un peu comme tout le monde, mais un peu plus marqué pour lui.
Mmh. Arnaud Desmarres qui a réagi juste après la ligne d'arrivée, il dit: j'ai pas pu éviter la chute une nouvelle fois, je me sens courbaturé, mais je pense que ça ira. Dans le final, j'ai eu un coup de moins bien, j'ai eu du mal à récupérer. Arnold Janson a fait un super travail pour me remonter, mais je ne pouvais pas le suivre. Demain, si je récupère aussi bien que la nuit dernière, je serai de nouveau opérationnel. Une bonne nuit de sommeil devrait réparer tout ça.
Donc, Cyril, excuse-moi,
oui,
de te
Thierry,
couper,
vas-y, Thierry.
Il y a quelque chose qui m'a impressionné, c'est que un coup de bordure comme il y a eu dans le final, on voyait qu'il y avait vent de côté, tout le monde reste en file indienne dans la bordure. Au lieu d'ouvrir tout de suite pour essayer de faire un éventail et d'essayer de suivre l'autre et revenir sur la première. T'as pas l'impression qu'aujourd'hui tout ça s'est perdu et que les gars restent en bordure et attendent le dernier moment pour ouvrir, et quand ils ouvrent, c'est pour rentrer à la maison.
Tout à fait vrai, mon cher Bourgui. En fait, les bordures ne se font qu'à partir du moment où, quand on est dans la ficelle, il y en a un qui pète.
Voilà, exactement.
Et à partir du moment où il y en a un qui pète, ça fait un trou de 10 mètres tout de suite. Alors là, on monte la bordure, alors qu'il faudrait la monter avant.
Ah, bien avant, fait. Oui. De suite, sentir que quand on est dans la caillasse, comme on dit vulgairement, et ben on ouvre, mais il faut que tout le monde
suive, parce que sinon tu te retrouves tout seul comme un con de l'autre côté.
Une fois que ça m'est arrivé, j'ai regardé passer les mecs, hein. Et là ça fait mal, hein. T'as l'air ridicule en plus.
Donc ça veut dire qu'il faut être organisé, il faut avoir autour de soi 3 ou 4 équipiers pour la montée.
Lucho, toi par exemple, t'as pas la même morphologie que Greipel. Je te voyais rêver devant ces biscottes.
Oui, tu sais très bien.
Je rêve de ça, Lucho.
Du tout, je suis fier de mon corps.
D'accord,
je suis fier de mon corps. Lucho, il s'aime bien.
Bah, il s'adore même.
Non, mais bon.
Il est affûté comme jamais, quoi. Il est
plaque
de chocolat et tout.
Les bras de Ripple font mes jambes, mais bon, c'est pas grave.
Ouais. C'est uniquement une question de gabarit.
C'est une question de puissance, c'est tout. Poids-puissance, comme le dit Cyril tout à l'heure. Voilà, quoi.
Donc ça veut dire qu'Ocar pourra jamais rivaliser avec Kittel et Greipel.
Si,
bien sûr. Sur certaines arrivées, oui, peut-être pas toutes, mais sur certaines arrivées, oui.
Cavendish est un petit gabarit,
mais costaud aussi.
Robbie McEwen était un coureur tout à fait normal.
Très fin et petit aussi.
Il n'y a pas besoin d'être gros et costaud pour gagner au sprint, quoi, en gros.
Voilà, après, il faut attendre d'être mûr, et ça sera le cas pour Cocard.
Ça sera le cas quand? Là, d'ici la fin du tour?
Non, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner une étape.
Il faut être patient, il ne faut pas mettre la charrue dans les bœufs, les gars.
Ça fait tellement d'années qu'on est patient. Les gars, on a envie de victoire, on a envie de bouquet, on a envie de français sur les podiums, on a envie de français avec des maillots jaunes, des maillots à pois, des maillots verts, des maillots de toutes les couleurs, et il n'y en a jamais, quoi. Qu'est-ce qui se passe?
Comment, il y a un français qui est avec un maillot blanc.
Moi je suis impatient, je veux des victoires, je veux des français sur les podiums.
T'énerve pas, Cyril, mon Christophe,
mais je
partage ton
ça
envie.
Ça fait 20 ans que vous me dites soyez patient. Je suis impatient.
Christophe, on partage ton envie,
sauf que nous, on est consultants, on n'est pas journalistes. Ouais. Voilà. Ouais. Et en tant que consultant, entraîneur,
on analyse
les choses. Et Cocard vient. Cocard va peut-être aller en chercher une.
Ah ben voilà.
Demain, je suis plus inquiet.
Il reste qu'un jour encore. Il reste qu'un jour. Et puis,
je suis plus inquiet pour Arnaud Demar, parce que deux gamelles, ça fait mal. Mais Cocard,
attention, demain, c'est une année pour Cocard.
Mais oui, s'il passe, il peut très bien aller chercher.
Non, mais attends, demain, c'est une année pour Cocard.
Ils ne passeront pas.
C'est une arrivée pour Coca. Kittel, il est entamé. Greipel, il a gagné sa première étape aujourd'hui. Mais attention, parce que demain, dans Nancy, tu as un petit coup de cul qui est quand même pas négligé. Non, attention, pas négligé. Sagan, il est un petit peu entamé aussi. Cocard, il va passer. Et Cocard, ça peut être sa victoire d'étape demain.
Donc, une victoire d'étape française au sprint, c'est la fin du tour.
Il y a la possibilité de voir une étape française demain.
Quand on va au bout, quand on vous titille, vous les lâchez, vos
victoires.
Laisse-nous terminer notre analyse.
Ma boule de cristal dit qu'il devrait arriver une victoire française d'ici la fin du tour.
15h21 sur RMC, on est en train de revivre les moments forts de ce Tour de France. Vous le savez, aujourd'hui c'est une journée de repos. Dans un instant, on continue notre petit tour d'horizon. Retour sur le premier grand tournant de ce Tour 2014. L'étape des pavés, c'était entre Ypres et Arambert.
RMC, Intégral Tour. RMC, Intégral Tour. Martial Fernandez.
L'intégral tour, même un jour de repos sur le Tour de France. On sera en direct de Besançon à partir de 17h avec Fred Adam et la Dream Team. En attendant, on repasse en revue ce qu'il ne fallait pas manquer sur ce Tour 2014 et ce qu'il ne fallait pas rater. C'est cette cinquième étape. C'était mercredi dernier. Ypres à Rambert, étape de pavé fatale pour le vainqueur 2013, Christopher Froome.
Nouvelle chute de Christopher Froome. La troisième en deux jours. On n'est pas encore sur les secteurs pavés. Et cette fois, il a beaucoup de mal à se relever. Christopher Froome, qui a le bras droit à l'équerre. Oh. La position que l'on n'aime pas du tout voir. Il s'est remis debout, mais il n'est pas remonté sur le vélo encore. Il a l'avant-bras droit posé sur sa selle, la main gauche sur le guidon. Et il se demande si c'est vraiment raisonnable de continuer. Rappelons qu'il était déjà tombé sur le côté droit. On vous disait que ça s'enchaînait mal pour le vainqueur sortant. Christopher Froome n'est toujours pas reparti. Voilà 45 secondes maintenant qu'il a chuté et il fait non de la tête à son mécanicien, il fait non de la tête à son directeur sportif, à Dario Scioni, son confident. Il enlève ses lunettes et il est en train de dire bye bye au Tour de France, lui vainqueur sortant, qui est tombé avec un coéquipier de l'équipe Sky, l'espagnol Xavier Zandio, qui aurait bien aimé d'être d'une quelconque aide aujourd'hui. Mais Christopher Froome, le Kenyan blanc, vainqueur sortant du Tour de France, leader et grand favori sur ce Tour de France, va essayer de repartir peut-être avec un vélo de rechange, mais son bras droit à l'équerre est parlant. Soit c'est le coude, soit c'est la clavicule. En tout cas, c'est Isol qui change de vélo. Il en a plein les bottes, Christopher Froome, et il est prêt à monter dans la Jaguar noire et bleue de son équipe Sky. Peut-être que son Tour de France 2014 s'est arrêté.
Non, il boit.
Cinquième étape avant les secteurs pavés.
Cyril, est-ce que tu penses que Chris doit reprendre la route? Non, a priori, il va monter dans la voiture, hein, a priori.
Bah c'est lui hein, qui a fait non. Il est vrai qu'il est rendu à 3 chutes en 2 jours et que on n'a pas encore attaqué le premier secteur pavé. Je pense que physiquement il doit être touché. Voilà, donc c'est l'abandon. Et vous savez que on l'avait déjà pratiquement annoncé hier. Hein. Mais vous savez qu'on le répétera. Il est dans une spirale très négative et cette spirale, eh bien, est tout simplement en train de, enfin était, puisque la course est maintenant terminée pour le vainqueur sortant du Tour de France, mais cette spirale, un petit peu comme un typhon, était en train de s'accélérer. Premier grand drame, on va dire, sur ce Tour de France, le départ du vainqueur sortant.
Et oui, ça t'est arrivé, Cyril, avec Bernard Hinault il y a de ça quelques années.
En 1980, où Bernard a été dans l'obligation d'abandonner au pied même de la montagne à Pau.
Et oui, c'est terrible. Hein. Ça doit être terrible pour c'est terrible pour nous aussi parce que évidemment on se faisait une joie d'assister à la grande bagarre dans les montagnes. Ça nous faisait plaisir de voir Chris Froome, formidable bagarreur qui nous avait montré tellement de belles choses l'année dernière.
Avec peut-être un nouveau tournant dans la course en ce moment à 44 km de l'arrivée. On vient de sortir du deuxième et très très boueux secteur pavé de la course et un homme est en train de chasser à l'arrière. C'est à Alberto Contador qui avait pourtant entamé le premier secteur pavé tout à l'heure en position idéale. Il y a plusieurs coureurs qui ont déchaussé, qui se sont arrêtés sur les côtés du deuxième secteur pavé dans la boue. Lui a été ralenti, il est resté bien comme il faut en ligne, mais devant, eh bien des cassures se sont produites et il est en train de chasser dans un deuxième peloton. Et qui roule à l'avant du premier peloton à 1 minute 10 de l'échappée, ce sont les Astana, les coéquipiers de Vincenzo Nibali. Nibali est sorti troisième du deuxième secteur pavé à 45 bornes de l'arrivée et il a intimé l'ordre à ses équipiers de ne surtout pas attendre Alberto Contador. Et il y a maintenant au dernier pointage plus de 40 secondes entre le peloton Nibali, Cancellara, Van Mark et les autres spécialistes des courses du Nord et le groupe Contador qui chasse, qui a des équipiers avec lui, mais c'est un mano à mano à 43 km de l'arrivée. Il reste encore 5 secteurs pavés. Quel chantier, quel spectacle.
Oh là là. Ben, on attendait une grande étape, et bien cette étape, on est en train de la vivre.
Et oui, Cyril, mais c'est pas surprenant quand
Cyril
même.
Cyril qui avait le sourire ce matin lorsqu'il a ouvert les rideaux de sa chambre, il a vu la pluie, il s'est dit oulala, là il va se passer des
c'est
choses.
C'est pas surprenant.
Et effectivement, il se passe des choses. Alors on est très triste évidemment pour Chris Froome, d'autant que c'est quand même l'un des principaux favoris, celui qui aurait pu vraiment livrer la grande bagarre dans les étapes de montagne. On est très triste pour Chris Froome, mais évidemment c'est le sport cycliste, ça a toujours été comme ça de tout temps, Cyril. Mais c'est vrai que cette étape, les organisateurs avaient décidé de faire franchir les pavés au peloton du Tour de France. Alors évidemment la polémique ce soir va sans doute naître, hein. Certains vont dire c'était trop difficile, il fallait pas faire courir.
Oui, mais de toute façon il y en a toujours qui sont contre tout. Le Tour de France, bah il faut passer partout.
Bah nous on a passé les pavés avant et puis voilà.
Vous savez, en 79, Bernard Hinault avait eu des gros problèmes sur les secteurs pavés. D'ailleurs il y avait beaucoup plus d'ailleurs de secteurs pavés que cette année. Ça l'a pas empêché de gagner le Tour de France derrière, mais ça avait été une très très grande étape.
Il y a six coureurs échappés avec 40 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. On rappelle que les deux Français Tony Galopin et Samuel Dumoulin sont là avec Tony Martin, avec le Hollandais Vestra, avec les Hollandais Heyman et Clark. Derrière, à 40 secondes, on trouve le groupe maillot jaune avec 28 éléments. Dans ce groupe figure donc Vincenzo Nibali, le leader du général, Peter Sagan, le maillot vert, le maillot à pois Cyril Lemoine, le porteur du maillot blanc Romain Bardet et son coéquipier et compatriote au sein de l'équipe AG2R La Mondiale, Jean-Christophe Perrault. On a la Talansky également, l'américain.
Oh là 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 là, la chute est incroyable.
Fabian Cancellara est là et dans ce groupe maillot jaune, ça tombe avec Sébastien Langeveld, le champion de Hollande. Et oui, quand on fait le forcing, quand on va à l'avant d'un groupe sur un secteur pavé pour mener un train d'enfer, quand la route se rétrécit ou quand le virage est prononcé, comme c'est le cas en ce moment, eh bien on va tout droit. Un coureur de l'équipe Lotto Bellisol qui menait tambour battant est allé tout droit et a fait une culbute par-dessus le vélo, un soleil. Ce sont les coureurs de l'équipe Belkin et le Hollandais Lars Boom, spécialiste des courses du Nord, qui emmène désormais le groupe maillot jaune. Est-ce que Nibali va réussir à tenir le rythme des spécialistes des courses pavées? C'est toute la question. Derrière ce groupe maillot jaune qui pointe à 30 secondes de la tête de course, on a donc un groupe Contador qui pointe lui à 1,25 de la tête, donc à plus de 45 secondes du groupe maillot jaune. Oh, n'allons pas trop vite en besogne, mais peut-être en train de perdre le Tour de France 2014. Coup de force de l'équipe Astana au fil des secteurs pavés. Vincenzo Nibali a fait preuve de son aisance sur les secteurs pavés mouillés, trempés, gadouilleux du Nord aujourd'hui, mais aussi eh bien grâce au soutien de son équipe Astana avec Jakob Fuglsang et surtout un Liu Vestra, machine à rouler. 12 coureurs à l'avant de la course, il reste 14 km à parcourir. Et l'écart continue de se creuser.
1,40 au dernier pointage, même 2 minutes désormais, nous dit-on, 2 minutes de retard pour le groupe Contador. 2 minutes, ça commence à faire beaucoup, Cyril, hein. Ça commence à faire beaucoup parce que Nibali, on le rappelle, est un formidable grimpeur lui aussi, et que Alberto Contador devra lui reprendre ses 2 minutes dans la montagne. Ça commence à faire lourd tout ça.
Ça commence effectivement à faire lourd et on est sur le plus long secteur pavé, 3,7 km dans le groupe de tête. Eh bien, c'est toujours l'équipier de Nibali
qui fait l'effort. Mais derrière, Contador est toujours, toujours à la rupture dès qu'il est sur les pavés. Donc l'écart peut, sur ce long secteur pavé, se creuser encore, même s'il reçoit maintenant beaucoup d'aide dans son groupe de chasse. Donc sur les parties roulantes, on a vu que les BMC s'étaient mis à rouler et qu'ils font le jeu aussi de Contador actuellement.
Mais oui, alors évidemment, pour l'instant, pour la victoire d'étape, en revanche, on a du mal à savoir ce qui se passe parce que les grands spécialistes des pavés ne font pas la différence, Lucho. Comment expliquer ça? Ils n'ont pas envie de sortir de ce groupe.
Ils essayent, hein. Lars Boom, depuis tout à l'heure, là, avec Sepp van Marck. Ce sont des coureurs qui adorent Paris-Roubaix, qui adorent le Tour des Flandres, qui sont toujours là au printemps. Ils ont essayé, mais ils se heurtent au travail de l'équipe Astana et à ce
Le rythme Vestra. Est tellement élevé, Fred, que c'est difficile de sortir aussi.
Hein. Liu Vestra, coéquipier de Nibali. On espère qu'il sera pas aussi fort en montagne, sinon ce serait suspect. On n'en est pas là du tout. Mais Liu Vestra, qui était dans l'échappée du jour, est en train de faire un travail pour Nibali qui annihile les tentatives des spécialistes des courses du Nord, incroyable, à 13 km de l'arrivée.
Nibali est-il en train d'assommer le Tour de France? Est-il en train tout simplement de remporter cette 101e édition du Tour de France? En tous les cas, il fait forte impression. L'Italien, leader de la formation Astana, champion d'Italie, qui avait remporté le Giro l'an dernier, qui avait également impressionné tout le monde il y a deux ans sur les routes du Tour, même s'il lui avait manqué un petit quelque chose dans les ascensions, mais en tous les cas aujourd'hui il va faire de gros écarts. On rappelle, plus de 2 minutes d'avance désormais sur le groupe Contador, 2 minutes 12 au dernier pointage, alors qu'il reste encore 5 km à parcourir, mais il n'y a plus aucun secteur pavé. Cyril, il est peut-être tout simplement en train de gagner le Tour aujourd'hui.
Oh, il est trop tôt pour le dire, hein. Il est trop tôt pour le dire.
On
l'avait donné à Froome avant le départ, enfin, une partie, et Froome n'est plus là. Non, 2 minutes 30, c'est un écart important, certes, mais qui n'est pas définitif. Hein. Il faut rester calme par rapport à cela. Vous savez, dans une étape de montagne, 2 minutes, ça peut être vite perdu aussi. Hein.
Oui, parce que c'est la chance, quoi. Je voulais dire tout à l'heure, attention à la chute, parce que c'est pas terminé. Attention à la crevaison. Ouais. Tout peut se passer encore jusqu'à la ligne d'arrivée.
L'écart continue de grandir avec le groupe Contador. 2,27 de retard pour Contador par rapport à Lars Boom, mais qui a quoi? Qui a 5-6 secondes d'avance sur Nibali, peut-être un peu plus.
Pas plus, hein. 10 secondes au dernier pointage d'avance pour Lars Boom, qui écrase les pédales, comme disent les coureurs. On passe à l'instant en ce qui concerne l'homme de tête. Lars Boom passe à l'instant sous la flamme rouge du dernier kilomètre.
La flamme rouge.
Le dernier kilomètre pour Lars Boom, le néerlandais qui va s'imposer alors que son équipe nationale de foot va jouer ce soir une demi-finale de Coupe du Monde. Hier, Kittel a gagné et l'Allemagne a gagné. Peut-être un signe, en tous les cas, Lars Boom va remporter une étape de prestige, Fred, dans quelques instants.
Lars Boom, 28 ans, spécialiste des classiques du Nord, ancien champion du monde de cyclo-cross, spécialiste également de l'effort solitaire. Il a remporté de nombreux contre-la-montre dans sa carrière. Il va aller décrocher là le succès le plus prestigieux de sa carrière. Hollandais de l'équipe Belkin, une équipe qui est à la recherche, avis aux amateurs, d'un nouveau partenaire pour la saison prochaine. Les sponsors avisés sauront reconnaître là les qualités de coureur de pavé de Lars Boom. À 400 mètres de la ligne d'arrivée, il compte 10 secondes d'avance sur un duo de l'équipe Astana composé de Jakob Fuglsang, le danois, et surtout du maillot jaune Vincenzo Nibali. Derrière, le groupe Perrault, Bardet et Talensky est à 2 minutes, et Alberto Contador qui a le visage complètement maculé, couvert de boue, creusé à la dérive, et qui tente de limiter la casse. 2 minutes 40 de retard pour Alberto Contador. À l'instant, ici même, à l'entrée de la terrible forêt d'Arenberg, Lars Boom remporte cette 5e étape de Tous les dangers. Victoire en solo pour ce Hollandais de 28 ans. Derrière, on continue d'unir ses efforts. Vincenzo Nibali calé dans la roue de son équipier de l'équipe Astana, Jakob Fuglsang. Ils sont cuits, ils sont cuits. Ils sont exsangues les deux, et ils franchissent à l'instant la ligne à 18 secondes de Lars Boom. Ils viennent de faire la bonne opération au classement général. Quel coup de force de Vincenzo Nibali et de son équipe Astana, qui a martyrisé la concurrence sur les secteurs pavés. Désormais, il n'a plus d'essence dans le réservoir, tout comme Peter Sagan, qui règle à l'instant à 1 minute du vainqueur du jour. Sagan qui règle Cancellara et Kökeler. On va attendre maintenant le passage de Romain Bardet et de Jean-Christophe Perrault dans un groupe intercalé avec l'américain Andrew Talinski, et plus loin, Alberto Contador et son équipe Saxo Tinkoff, qui est désormais à près de 3 minutes, près de 2 minutes 40 de Vincenzo Nibali.
Une 20 déjà armée, une 23 maintenant que le vainqueur de l'étape a franchi la ligne, Lars Boom. Nibali qui est donc arrivé en 3ème position avec un retard de 20 secondes sur Lars Boom, et on attend donc toujours Contador, on attend tous les grimpeurs qui se sont unis, qui ont uni leurs efforts derrière pour tenter de limiter les dégâts, mais les dégâts sont énormes.
On va attendre maintenant l'arrivée de Contador. Thibaut Pinot est en train d'en terminer avec Romain Bardet à 2 minutes 28 très exactement. Il n'y a toujours pas d'Alberto Contador. Il me semble que Contador a été victime d'une fringale dans les derniers kilomètres. Son visage était très parlant tout à l'heure, couvert de boue. Il se retournait, cherchait des équipiers, cherchait du soutien. Un coup de buis pour Alberto Contador qui va franchir la ligne d'arrivée dans la roue de Daniele Benatti à plus de 3 minutes du vainqueur du jour.
2,50 très exactement que Lars Boom a franchi la ligne d'arrivée. Alberto Contador qui en franchit, qui franchit à son tour la ligne d'arrivée. Quasiment 3 minutes de retard, 2,48 pour Alberto Contador.
2,55 sur Lars Boom et donc 2,35 sur Vincenzo Nibali.
Ah oui, d'accord, 2,35 sur Nibali, d'accord. C'est ça que vous montrez Lucho. Voilà. Je comprenais pas. Lars Boom vainqueur donc de cette 5e étape. Nibali 3e avec un retard de 19 secondes. Et on vous le dit donc, l'arrivée d'Alberto Contador retardée. Cyril, c'est un coup de Trafalgar aujourd'hui sur Tour de France. Est-ce que Alberto Contador a perdu le tour? Je dis pas est-ce que Nibali a remporté le tour, mais est-ce que Alberto Contador a perdu le tour aujourd'hui?
Écoutez, honnêtement, je ne le pense pas, mais c'est un débours qui, j'ai presque envie de dire, pour le spectacle, ça va être formidable, parce qu'il va falloir qu'il reprenne 3 minutes à Nibali. Ça n'est pas gagné, mais ça va nous assurer, et grâce à cette étape, ça va nous assurer des étapes de montagne qui vont être épiques.
15h41 sur RMC, on est ensemble jusqu'à 17h. À 17h, on partira en direct du côté de Besançon pour vivre et avoir des coureurs avec Fred Adam et la Dream Team pour cette journée de repos du Tour de France. On revit avec vous pour l'instant les meilleurs moments de ces 10 premières étapes. Dans un instant, les membres de la Dream Team débattent sur le cas Christopher Froome, le malheureux de ce début de Tour de France.
Quand on vous dit qu'on peut écouter RMC partout, quand on vous dit qu'on peut écouter RMC tout le temps, c'est vrai. RMC s'écoute n'importe où et à n'importe quel moment sur les applis, tablettes et smartphones et sur rmc.fr.
Et ils ne sont plus que 179 pour cette journée de repos sur le Tour de France. Ils étaient 180 ce matin. Mais le Suisse Fabian Cancellara vient d'annoncer qu'il abandonnait dans un communiqué. Je le cite, Fabian Cancellara: « Je vais rentrer chez moi, faire une pause. La saison a été longue, j'ai fait 59 jours de course et j'ai un autre grand objectif à la fin de la saison avec les championnats du monde. Il est donc important que je me repose. » Le message du Suisse qui a 33 ans maintenant cible ses objectifs. Il avait un objectif sur cette étape, c'était la 5e, celle entre Ypres et Arambert dont on vient de parler, et il avait terminé à la 5e place seulement, et en plus son leader Andy Schleck de l'équipe Trek a déjà abandonné. Du coup, Fabian Cancellara n'a plus vraiment de raison de continuer sur les Alpes et les Pyrénées. On va juste faire un rappel aussi, le classement général, parce que autant en profiter, il y a 4 Français dans les 10 premiers, mais dans les 8 premiers. Italien Nibali bien sûr en tête, l'Australien Porte 2 minutes 23 secondes derrière à la 3ème place, l'Espagnol Valverde 2,47, le premier Français, meilleur jeune de ce Tour de France, Romain Bardet à 3 minutes et 1 seconde, Tony Galopin, l'ancien maillot jaune, 5ème à 3 minutes 12, Thibaut Pinot est 6ème à 3,47, 7ème l'Américain Van Garderen à 3,56 de Nibali, 8ème juste derrière Jean-Christophe Perrault donc de l'équipe AG2R la mondiale à 3,57, 9ème le champion du monde Rui Costa, et à 3 minutes 58 c'est à 4 minutes 08 c'est le néerlandais Bauke Mollema. Si vous le souhaitez poser des questions aux membres de notre Dream Team, ils seront là à partir de 17h dans 1h20 en direct de Besançon. Luc Leblanc, Cyril Guimard, n'hésitez pas, le 32-16. Vous avez aussi le compte Twitter avec @rmcsport et vos réactions via le hashtag RMC Live. N'hésitez pas, toute la Dream Team répondra à vos questions. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour le débat sur Christopher Froome, vainqueur sortant, mais vainqueur qui a déjà abandonné ce Tour 2014.
Appelez RMC au 32-16, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC, Intégral Tour, Martial Fernandez.
15h44 sur RMC, on revit les meilleurs moments de ce Tour de France en cette journée de repos. C'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, la simulation officielle du Tour de France sur PC, le jeu de société L'Échappée Infernale et le livre Jour de Fête, la grande histoire du Tour de France aux éditions Chroniques. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau appelé le 3216 touche 6 ou envoyer RMC par SMS au 732-16. Bonne chance à tous. Nous, on continue notre revue de ces 10 premières étapes et on va parler de Chris Froome qui a chuté deux fois sur Tour de France, qui a abandonné, et la Dream Team décrypte cet abandon.
Alors évidemment, l'info du jour, même si elle a été, il y en a eu d'autres par la suite, c'est évidemment l'abandon de Christopher Froome aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure. Deux nouvelles chutes aujourd'hui, alors que on s'en souvient, hein, le vainqueur sortant du Tour avait déjà chuté hier, il portait une attelle aujourd'hui sur le poignet gauche, il était blessé au poignet gauche, et après deux chutes aujourd'hui, eh bien, il a définitivement abandonné. Cyril, on se doutait que l'étape serait compliquée pour Chris Froome après sa chute d'hier. On en a eu rapidement la confirmation. Deux chutes aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il était dans les conditions idéales quand on est blessé au poignet pour affronter des conditions telles qu'on les a connues aujourd'hui?
Alors, sûrement pas. Il devait énormément douter. À mon avis, il a très mal dormi. Mais je pense que dans la tête, il savait qu'il avait déjà perdu le Tour. Et ces deux chutes ne viennent pas par hasard. Elles sont liées à un coureur, à un individu qui est en souffrance, qui n'a plus le moral et qui se laisse un petit peu aller. Et j'ai presque envie de dire, ces deux chutes, finalement,
ça l'arrange
finalement. Il est tombé deux fois et il va rentrer chez lui, il va essayer de se refaire pour aller faire le Tour d'Espagne en fin de saison. Mais je crois que
Il doit être soulagé d'abandonner le Tour. Comment tu peux dire ça? Il a quand même misé toute sa saison sur Tour de France. Il a tout basé là-dessus. Son équipe comptait sur lui. Comment on peut dire ça l'arrange d'avoir abandonné le Tour?
Parce qu'il est pas dedans. On le sait depuis le départ qu'il est pas dedans. Il sait qu'il a pas les jambes. D'ailleurs, on l'a pas vu faire travailler son équipe comme d'habitude. Il était à l'envers depuis le début de ce Tour de France. Et plutôt que d'être battu à la pédale, eh bien inconsciemment, on se met dans les situations ou dans des positions qui font que s'il se passe quelque chose, vous allez aller par terre et quelque part vous allez avoir l'alibi de l'abandon.
Ah, l'alibi,
et
surtout, ça c'est ton mot ça.
L'alibi de l'abandon, et on n'a pas perdu à la pédale, donc il pourra toujours dire oui, mais si j'avais pas eu ces chutes, j'aurais gagné.
Ouais. Thierry, tu es convaincu par l'analyse de Cyril, c'est un soulagement pour Chris Froome d'avoir abandonné aujourd'hui?
Non, mais assez proche, parce que c'est vrai qu'on le sentait en souffrance déjà hier soir, et puis il y a des bruits qui courent qu'il y avait un secret médical, le docteur nous avait menti. Il y aurait eu déjà un petit trait de fracture sur le poignet.
Oui, le docteur Pommery nous disait hier, c'est pas tout à fait clair, on sait pas exactement ce qu'il y a.
Oui,
il n'y a pas de fracture franche.
Il pouvait pas le dire. De toute façon, il y a le secret médical et son équipe ne voulait surtout pas le dire.
Ouais.
Donc, en pensant que ça pouvait passer sur une étape de plat à la rigueur, mais sur une étape de pavé, et on a vu, Cyril a raison, il est pas dedans. Hier il est tombé parce qu'il était au milieu du peloton, il faisait pas attention, et qu'il est pas dans la course depuis le début. Ça, je suis entièrement d'accord avec Cyril. Alors, on va pas dire qu'il s'est jeté par terre, hein. Ça c'est clair.
Non, c'est pas ce que je dis.
Inconsciemment, c'est inconsciemment que quand on n'est pas dedans, ben là on n'arrête pas de tomber. C'est pas digne d'un vainqueur ou futur ou voire ancien vainqueur du Tour de tomber sans arrêt comme ça. Ouais. C'est ce qu'on disait hier. Il est pas dedans, il a pas la tête à ça et il a pas les jambes surtout.
Voilà, Chris Froome qui vient de tweeter d'ailleurs en disant: je suis dévasté d'avoir dû abandonner le Tour 2014. Un poignet blessé et des conditions terribles ont rendu ma conduite du vélo impossible aujourd'hui. Merci à l'équipe d'avoir essayé de m'emmener au bout. Je souhaite le meilleur à Richie Porte et à toute l'équipe pour la suite du Tour. Lucho, on l'a retrouvé, ça y est, il est toujours là.
Sorti de la mine.
Il est sorti
de la mine.
Attends, ça caille.
Attends, tu vas pas te plaindre, mais non, il a été coureur.
En fait, il faut le dire, il sort de la mine et c'est une gueule noire.
T'as été coureur ou quoi? Tu te rappelles pas de ces conditions?
Bien sûr, si, je me rappelle.
Non, t'as oublié. T'aurais aimé les conditions d'aujourd'hui.
Je me rappelle bien de ce que j'ai vécu quand j'étais coureur, mais je suis pas obligé de le vivre aussi aujourd'hui avec vous.
Très bon, Lucho. Chris Froome, l'abandon aujourd'hui, c'est toujours terrible de voir un vainqueur sortant, le favori numéro un du Tour, à abandonner comme ça aussi rapidement dans la grande boucle.
Ouais, oui, c'est dramatique pour lui, c'est dramatique pour Sky, mais comme l'a dit Cyril, de toute façon, il n'était pas du tout dedans depuis le départ du Tour, même déjà depuis le Dauphiné libéré. Donc moi, même si je l'avais mis favori sur le Tour et vainqueur dans les pronostics,
tu croyais pas en fait.
Mais tu croyais pas.
Ouais, j'y croyais à moitié parce que tu nous quittes, Lucho là.
Non, je vous quitte pas parce que j'ai mis maintenant Nibali vainqueur du Tour. Donc voilà, pas encore.
Nibali va tomber dans deux jours.
Je le mets dans les pronostics, mais on n'en est pas là encore. Ce que je voulais simplement dire, c'est que vrai que depuis le départ du Tour, on le sent pas bien. Même son équipe au Tour, on les sentait pas à l'aise. Il y avait quelque chose qui se passait. Et puis c'est vrai que là, à partir de hier, ça a complètement cassé. Et puis aujourd'hui, avec la pluie, les pavés à droite, à gauche, de la boue partout et tout.
Il avait
certainement du mal à tenir son guidon. Donc bon, voilà, c'est pas étonnant de le voir abandonner aujourd'hui.
On va écouter tout de suite Dave Brailsford, le manager de la formation Sky, que Georges Quirino vient de rencontrer sur évidemment l'abandon de son leader Chris Froome. Dave Brailsford.
C'est encore dur, c'est sûr, mais ça arrive. Je pense que dans le sport, on peut pas toujours gagner, mais c'est vrai qu'on est très déçu pour Chris. Surtout, il était dans une très très bonne forme. On croyait vraiment qu'il allait gagner encore, mais voilà, c'est le Tour de France, c'est le sport. Et là, il faut rebondir et continuer à croire maintenant en Richie Porte.
Voilà, Richie Porte, nouveau leader de la formation Sky. On en parlera dans un instant. On écoutera à nouveau Dale Brailsford parler d'un absent. D'ailleurs, c'est le thème de notre premier débat. Sky a-t-il fait une erreur stratégique en se privant de Bradley Wiggins au départ de ce Tour de France? On rappelle que Wiggins avait remporté le Tour il y a 2 ans. Wiggins était candidat pour participer au Tour en tant que lieutenant de Chris Froome. Il voulait se mettre au service de Chris Froome, mais Brailsford et tous les dirigeants de la formation Sky en ont décidé autrement. Il faut dire que les relations, on le sait, entre Froome et Wiggins sont un peu compliquées, un peu délicates, mais malgré tout, si aujourd'hui Wiggins était là, ça serait quand même un sacré leader de remplacement. Quand on est une équipe qui vise la victoire sur le Tour tous les ans, se priver comme ça d'un leader de remplacement, Cyril, est-ce que c'est une erreur stratégique? Est-ce que toi, à l'époque, tu te serais privé d'un Fignon ou d'un Hino ou d'un Lehmann au départ du Tour?
Non, mais on les a jamais eu dans ces dans cette configuration là.
Tu as eu Fignon.
Oui, mais non, ils n'ont pas été en même temps.
Et quand Hino a abandonné, c'est Fignon qui a gagné, non?
Non, il a pas pris
pas
le départ.
Abandonné. Non, il avait pris le départ.
On n'est pas dans la même configuration, Christophe. On a deux coureurs qui ont dans la même équipe gagné le Tour. Je n'ai jamais eu dans la même équipe deux coureurs qui ont gagné le Tour. Bernard est parti,
c'est rare, hein,
est parti en 83, enfin fin 83, mais il a pas fait le Tour 83. Fignon a gagné ce Tour 83 et en 84, Hino n'était plus avec Fignon, ouais. Il était avec un dénommé Tapie.
Oui, d'accord.
Un marchand de tapis, pardon.
Oui, mais et si tu les avais eus tous les deux, entendu.
Mais c'est pas possible, je ne pouvais pas les avoir.
Oui, mais là, en l'occurrence, ils les ont. Sky.
Donc on compare pas.
C'est
donc,
une erreur déjà.
Mais moi, je
c'est
dis. Une erreur. Alors, je vais répondre à la question et pas revenir sur Hino Fignon. Ça n'est pas une erreur de stratégie. Wiggins n'est plus coureur depuis 2 ans.
Et d'accord. Vous mettez. Et si tu veux faire exploser une équipe, tu peux mettre Wiggins.
Voilà.
Oui,
donc si
pas.
Tu mets Wiggins, de toute façon, voilà. Il est plus coureur, il a pris 7 ou 8 kilos. Alors effectivement, sur des courses plates, il peut être là. Il a pratiquement pas fini une course depuis un mois quand même. Hein.
Mm-hmm. Très bien. Mm-hmm. Tiens, Dave Brailsford, justement, interrogé là aussi sur le fait de ne pas avoir pris Wiggins. Ça lui a été reproché en Angleterre il y a quelques jours au départ de cette grande boucle, parce qu'évidemment, Wiggins est très populaire outre-Manche. Alors, est-ce une erreur? La réponse de Brailsford.
La faute de ne pas sélectionner Bradley? Non, je pense que là on a sélectionné l'équipe à l'époque avec toutes les données qu'on a et voilà, Chris était le meilleur coureur chez nous pour essayer de gagner cette course. Moi je crois qu'il allait gagner, je pense, hein. Il avait un énorme apport, mais il était mieux que l'année passée en fait. Et voilà.
Thierry,
rappelle-toi. L'an dernier, à l'arrivée de Axel Trois Domaines, quand j'ai dit, je connais déjà
La sélection pour le Tour 2014.
Oui. Non, non, je connais déjà le remplaçant de Froome. C'était Porte. Parce que, et comme d'habitude, l'année d'avant, c'était Wiggins qui avait gagné. Froome, qui était deuxième, le lieutenant idéal, très très fort. Et là, on avait vu Froome gagner et Porte lever le pied. Hein, on dit franchement lever le pied. Donc bon, le concours de circonstances aujourd'hui, il n'est pas loin. Il est huitième au général, je crois.
Oui, il est
huitième au général à une 54.
Exactement.
Rien n'est perdu pour lui, bien au contraire. Et je suis d'accord avec Cyril, on peut pas mettre déjà deux hommes qui se détestent dans la même équipe, parce qu'ils se détestent. Ils peuvent pas rouler, même s'il y en a un qui dit qu'il va se mettre lieutenant et à 100% pour Froome. Je le crois pas. Et en plus, il a pas eu les performances pour être sélectionné au Tour. Voilà, c'est tout. Mm-hmm. C'est sûr qu'après la chute, on peut toujours polémiquer, mais c'est trop facile, ça.
Ouais. Lucho, tu partages l'avis de tes deux compères. C'était pas une erreur stratégique. Sky avait tout misé sur Froome. C'était normal.
Bien sûr que non, c'est pas une erreur stratégique. De toute façon, si tu veux faire exploser une équipe, comme on l'a dit tout à l'heure, tu mets Wiggins avec Froome et puis tu verras bien comment ça va se passer. Il y aura un clan Wiggins, un clan Froome, et puis ça va pas durer longtemps. Quoi.
15h55 sur RMC, vous l'avez compris, on est en train de revivre les meilleurs moments de ce Tour de France parce qu'aujourd'hui, c'est repos et dans une heure, on y sera sur cette journée de repos en direct. L'intégral tour avec Fred Adam et la Dream Team du côté de Besançon. En attendant, entre 16h et 17h, on va revenir pour les moments forts de ce début de tour avec les étapes des Vosges, Galopin en jaune un jour, Nibali en patron et puis bien sûr hier, l'abandon de Contador. Et en parlant d'abandon, on peut aussi quitter le tour un jour de repos. C'est le cas de Fabian Cancellara, le Suisse qui annonce par communiqué qu'il quitte la course. Il n'est pas blessé. Il souhaite, lui, se consacrer à ses objectifs de fin de saison. Et ses objectifs de fin de saison, quand on s'appelle Fabian Cancellara, c'est de remporter les championnats du monde. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour.